Bonjour à toutes et à tous, nous voici repartis sur le territoire hébroïcien. Aujourd'hui, nous nous sommes posés et nous avons posé notre studio mobile à la maison de quartier de la Madeleine à l'occasion d'un forum sur le parcours de l'emploi et de la formation. Hier, nous étions à Navarre pour le même forum. Demain, nous serons à Netreville au gymnase Jean Bar. D'ailleurs, on vous invite à nous y rejoindre, soit aujourd'hui sur la maison de quartier de la Madeleine, soit demain au gymnase Jean Bar de Netreville. C'est l'occasion pour nous d'échanger avec bon nombre d'acteurs de l'emploi et de la formation. Pêle-mêle et de manière non exhaustive, nous rencontrerons WeMove, le département, la CIBC, le Bus 56, l'AFA, Citelab, la Chambre des métiers de l'artisanat, la mission locale, le Évreux-Porte de Normandie, le PLI, le Cap Emploi, le Pôle Emploi, la Chambre du commerce et de l'industrie. Et je vous ai dit, c'est non exhaustive car tous ces moments-là seront ponctués par des témoignages de jeunes et de moins jeunes qui ont fait un parcours dans ces accompagnements. C'est l'occasion pour nous, nous l'espérons, d'y voir plus clair. En tout cas, vous pouvez nous suivre également sur Twitter. Un groupe de jeunes de la Garantie Jeune tweet à tour de bras avec l'arrobase forum QPV27. Vous pouvez les suivre, bien entendu. Pour radiopropulser cette émission jusqu'à vos oreilles, nous avons encore une équipe de choc, à savoir l'ami Damien qui se promènera avec son micro à chef et l'ami Pignon à la réalisation. Et pour ouvrir ce plateau, planter le décor, nous avons autour de nos micros Thierry Couder, bonjour, vous êtes bonjour. Préfet de l'Eure, et Fouzia Nouissère, vous êtes délégué du préfet sur les quartiers politiques de la ville sur Évreux. Bonjour à vous. Alors ma toute première question s'adresse à vous, monsieur le préfet. L'emploi est une compétence croisée entre plusieurs la région notamment, le département, l'État, les collectivités locales. Je voulais savoir un petit peu quelles étaient la mission des services de l'État, en particulier sur cette question de l'emploi et comment vous l'abordiez.
Oui, vous avez oublié, avant de répondre à la question, le principal partenaire, c'est les entreprises.
Oui, tout à fait, oui.
Parce que c'est elles qui créent les emplois. Et que moi, en tant que représentant de l'État, je pilote le service public de l'emploi départemental, qui regroupe un certain nombre de services de l'État, notamment la direction du travail, et aussi d'établissements publics de l'État, comme Pôle emploi notamment. Ce service public réunit aussi des institutions qui sont mixtes, comme les missions locales, qui sont à la fois financées pour moitié par l'État et pour l'autre moitié par les collectivités locales. Donc la compétence de l'État sur ces sujets, c'est celle de détenir un certain nombre d'instruments qui permettent de faire une relation favorisée entre l'offre d'emploi qui est offerte, si je puis dire, par les entreprises et la demande d'emploi, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi. Alors, l'activité des collectivités locales, elle peut se traduire dans le centre d'institutions, dans les missions locales, par exemple, où effectivement, elle contribue au financement et à l'animation. Et elle peut se faire aussi à travers d'un certain nombre d'actions qui sont initiées aussi ici ou là. Mais en tout cas, pour moi, ce qui me concerne, je suis le pilote du service public départemental de l'emploi, avec l'aide de la direction du travail et notamment de Pôle emploi.
Ce maillage partenarial est bien entendu essentiel pour mener bien l'émission. Est-ce qu'il y a concrètement, quelle est la manière de piloter ces questions sur l'emploi? Est-ce que ça se passe à travers des directives, par exemple, que chacun applique dans son secteur, ou est-ce que c'est plus bon, intégrant que ça? Comment ça fonctionne?
Ça se veut très opérationnel et d'essayer. Comme je vous le dis, l'emploi, c'est d'abord l'économie vivante, c'est d'abord les entreprises, les employeurs. Bon. Nous, on est là pour essayer de faciliter le fonctionnement du marché de l'emploi et pour aider les entreprises, le cas échéant, à se développer. Et donc, on peut intervenir de deux manières, soit par rapport à des entreprises. Il y a actuellement, dans le département, comme sur le reste de la France, des entreprises qui cherchent des salariés, alors que nous avons un taux de chômage qui n'est pas négligeable, mais parfois, justement, elles n'arrivent pas à trouver, parce que sur tel bassin de vie, il n'y a pas les ressources, notamment. Et donc, il y a tout un travail à faire pour qu'il y ait cette articulation qui se fasse entre des demandeurs d'emploi et des entreprises, et notamment par le biais de la formation. Et là, nous pouvons aider, mettre des formations spécifiques en place. Alors précisément, nous sommes à l'articulation, parce que la compétence formation relève de la région, mais nous détectons, et c'est d'ailleurs un des rôles des délégués du préfet sur les bassins, sur les QPV avec lesquels ils travaillent, c'est d'identifier parfois des besoins qu'il peut y avoir et sur lesquels des publics peuvent être mis en relation. Et le deuxième sujet, c'est travailler sur ces publics, précisément. Il y a des publics qui ont des difficultés d'accès à l'emploi. Des gens qui n'ont pas de problème, parce qu'ils ont des diplômes, des spécifications, etc., qui correspondent à ce qui est demandé localement. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance ou cette capacité. Et donc, on travaille à la fois sur les entreprises pour leur permettre éventuellement de trouver dans la boîte à outils des pouvoirs publics des instruments, notamment en matière de formation, qui leur permettent de satisfaire leurs besoins. Et on travaille sur la détection de publics qui peuvent avoir des difficultés. C'est le public aujourd'hui des QPV, ça peut être d'autres publics.
Quartier politique de la ville.
Quartier politique de la ville, ça peut être d'autres publics qui ont des difficultés, comme des demandeurs d'emploi handicapés, par exemple. Et donc, nous essayons de faire en sorte que ces publics-là puissent avoir un accès facilité au marché de l'emploi et répondre aux besoins des entreprises.
Globalement, sur le département de l'Eure, j'imagine qu'il y a des diagnostics qui existent. J'imagine que vous travaillez sur des fonctionnements.
Mais
est-ce qu'il y a une particularité au département de l'Eure, une problématique qu'on ne retrouverait pas ailleurs, ou je sais pas, ou au contraire des leviers qu'on ne retrouverait pas ailleurs? Quelles sont les caractéristiques spécifiques du département de l'Eure sur ces questions-là?
Bon, le département de l'Eure n'est pas très différent de la plupart des autres départements. Alors, c'est un département qui, en revanche, à l'intérieur de lui-même, présente des situations très contrastées. C'est un département à la fois urbain, où il y a un certain nombre de villes avec des quartiers politiques de la ville. C'est un département aussi qui a un tissu rural extrêmement important et où il y a d'autres types de problématiques d'emploi qui se posent, et notamment en termes d'accès à l'emploi par la mobilité. Je vois d'ailleurs qu'il y a WeMove qui participe aujourd'hui à ce forum, et qui est un spécialiste de la question, qui peut travailler aussi bien sur les quartiers politiques de la ville que sur les zones rurales. Mais voilà, c'est plutôt au sein du département qu'il y a deux typicités très marquées, mais qui, pour la typicité quartier politique de la ville, peut recouper un certain nombre d'autres villes de notre pays, et sur la ruralité aussi d'autres zones rurales de notre pays.
Vous évoquez depuis le début de notre échange régulièrement cette notion de quartier politique de la ville. Est-ce qu'il y a un accent particulier? Alors très clairement, sur Évreux, ces quartiers politiques de la ville sont Navarre, Nétreville et La Madeleine.
Les trois que vous avez cités, sur lesquels intervient ce forum sur ces trois jours.
Il y a un accent particulier qui est mis sur ces quartiers, et pourquoi en fait?
Il y a plus qu'un accent particulier, si vous voulez. La politique de la ville, en fait, ses 40 ans cette année, a notamment comme instrument le label quartier politique de la ville. Ce qui suppose que sur ces quartiers, un certain nombre de fonds d'État sont mobilisés conjointement avec ceux des collectivités locales pour mener des actions d'intégration, d'insertion, d'amélioration de l'habitat, d'amélioration du cadre de vie, d'animation. Je suis par exemple très attaché à ce que sur les quartiers politiques de la ville, à Évreux d'ailleurs, mais il y a aussi les quartiers politiques de la ville sur ce qu'on appelle la case, c'est-à-dire Val-de-Reuil, Louviers, je suis très attaché par exemple à ce qu'il y ait, au moment où l'école ferme le soir, le week-end et les vacances, des activités sportives, socio-culturelles, de façon à ce que les jeunes ne restent pas à s'ennuyer chez eux ou dans leur cage d'escalier, et qu'ils puissent orienter leur talent, leur joie de vivre vers des activités ludiques, sportives, et ne pas avoir à traîner. Je veux dire, c'est quelque chose de très difficile, mais parce que peu d'institutions pour l'instant ont voulu rentrer dans le jeu, mais c'est un enjeu essentiel parce que ça change beaucoup la vie d'un quartier, ça change la vie des jeunes, la vie des parents et la vie d'un quartier. Et moi, je fais en sorte qu'une partie des financements politiques de la ville puisse être mobilisée pour ce type d'opération. C'est d'ailleurs pour ça que sur Évreux, nous avons soutenu cet été des institutions qui ont participé à ce dispositif, et qu'en revanche, une autre importante qui a refusé de le faire s'est vue retirer ses financements.
Sur la notion aujourd'hui de quartier politique de la ville, et également la présence de ce forum sur ces fameux trois quartiers, Navarre, La Madeleine et Nétreville, il y a une notion importante également qui est de se rapprocher des publics et faire une partie du chemin, en tout cas, proche du lieu de vie, proche de l'endroit où finalement ses habitants évoluent, plutôt que de forcément centraliser en centre-ville ou sur une antenne extérieure. Cette notion de se rapprocher des publics, j'imagine qu'elle est importante aussi quand on s'adresse au quartier politique de la ville.
Ben oui, parce que le quartier politique de la ville, c'est zoomer sur un quartier ou sur des quartiers. Zoomer en concentrant des financements particuliers pour que le retard que peuvent avoir ces quartiers par rapport aux quartiers de centre-ville puisse être rattrapé. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir se cibler comme ça sur des actions de ce genre. En ce qui concerne la présence des services publics et notamment du service public de l'emploi, moi j'avais demandé précisément l'année dernière, j'avais été très surpris de voir qu'ici la mission locale qui est en centre-ville n'avait pas d'antenne sur les quartiers politiques de la ville et notamment sur la Madeleine. J'ai demandé à ce qu'une permanence soit organisée. Alors, elle n'est pas tous les jours, mais je souhaiterais à terme que, par exemple, la mission locale s'installe définitivement sur un quartier politique de la ville plutôt que de rester en centre-ville. Précisément cette notion de se rapprocher de publics qui ont un certain nombre de difficultés. Il faut aller au-devant pour essayer de les aider à surmonter ces difficultés. C'est la vocation même de ces institutions.
C'est-à-dire bouger les services pour les rapprocher des citoyens. Je voulais revenir du coup sur... Alors peut-être, Madame Nouisser, c'est vous qui allez vous emparer de la parole. Il y a quand même tout un réseau dans la construction de ce forum. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de partenaires de l'emploi, de la formation. C'est aussi une construction collective. Et ça, c'est important. Au bout d'un moment, ce n'est pas la déléguée du préfet sur les quartiers politiques de la ville d'Évreux qui vient imposer un projet à des gens et demander leur présence. C'est bel et bien une co-construction quand même. Et ça, j'imagine que ça a une importance.
Effectivement, JC, ce projet en fait est issu d'une réflexion qui avait été portée en SPED. Donc tout à l'heure, monsieur le préfet parlait du SPED. Donc,
nous dire ce que c'est.
Le service public à l'emploi départemental. Là, on est sur du service public à l'emploi à l'échelle locale, qui est mené par Madame Lacassane, la secrétaire générale. Et quand j'ai intégré ce comité, ce qui remontait, c'est effectivement le fait que les personnes... il y avait un constat que des personnes étaient souvent éloignées de l'emploi, que les demandeurs d'emploi, il y avait une baisse au niveau du nombre de demandeurs d'emploi, mais qui ne voulaient pas signifier qu'ils avaient peut-être trouvé un emploi, mais qui... justement, ne venait plus justement vers les institutions. À partir de là, on a commencé à réfléchir ensemble, en partenariat avec la Direct, et on a mis en place cette action avec les remontées de chacun. Et on a débuté en juin, et en septembre, une première réunion d'organisation, où là, tous les partenaires étaient réunis. Aujourd'hui, autour de la...
Et chacun a écrit une partie de ce projet qu'on retrouve aujourd'hui. Enfin, finalement, il a été coporté,
copensé
justement par les partenaires.
Tous les partenaires qui sont présents aujourd'hui ici font partie aussi du service public de l'emploi. Donc aujourd'hui, c'est une mise en œuvre de ce qu'on avait imaginé pour ces quartiers.
J'ai une dernière question. Vous allez voir toute la naïveté de ma question, mais ce n'est pas grave. À qui s'adresse ce forum, ces forums, d'ailleurs au pluriel, parce qu'on l'a retrouvé hier à Navarre, aujourd'hui à la Madeleine sur la maison de quartier, et demain au gymnase Jean-Bart de Netreville. Oui. À qui ça s'adresse?
Ça s'adresse à tout public, en fait. Ça s'adresse aux personnes qui ont décroché, qui ne vont plus vers le pôle emploi, la mission locale. Ça s'adresse aux jeunes, ça s'adresse aux personnes qui ont envie de se réorienter. Donc ils peuvent bénéficier d'un accompagnement VAE avec le CIBC, le fonds GC.
VAE, alors validation des acquis d'expérience.
Moi, JC. Une personne qui a envie de créer son entreprise, on a CitéLab qui est présent aujourd'hui. Ça s'adresse vraiment au tout public pour reprendre de l'information. Aujourd'hui, on est vraiment sur une campagne d'information justement sur les différents dispositifs. À quel moment je peux trouver le chemin qui m'amènera vers un emploi, vers une formation, vers une qualification.
Et nous l'avons constaté hier notamment à Navarre et nous continuons de le constater aujourd'hui à la Madeleine et j'imagine que nous le constaterons encore demain à Netreville. Ce sont de vrais humains qu'on a en face, des conseillers humains et c'est ça aussi qui change. Bon, j'ai quand même fait l'interview d'une tablette hier, mais, mais en dehors de ce point technologique particulier, ce sont quand même de vrais humains nous avons en face, des conseillers et les témoins que nous avons hier et ceux que nous aurons aujourd'hui nous raconteront, continueront à nous raconter qu'en fait quand on a un conseiller, c'est le même qu'on qu'on garde bien souvent. Et c'est cette relation humaine aussi qui est importante dans la confiance et dans l'accompagnement.
Tout à fait.
Merci beaucoup à vous, Fouzia Nouissère, déléguée du préfet sur les quartiers politiques de la ville sur Évreux. Merci beaucoup à vous, Thierry Coudert, préfet de l'Eure. Monsieur Pignon, je me retourne vers vous et avant que nous retrouvions le bus 56, je vous propose une pause musicale.
Bafan avec le titre SIFA qui jouera au Cube à Évreux ce vendredi. Et puis comme Monsieur Pignon est sympa, il vous a mis deux places de côté. Si vous voulez deux invites, eh bien appelez au 02 32 62 57 32. C'est notre répondeur téléphonique. Laissez vos coordonnées et c'est Pignon qui invite.
Principe actif.
Cette petite radio est ce qu'on appelle une radio libre.
C'est une radio libre.
Oui, je sais.
C'est une radio libre.
Je suis au courant.
Parfait.
Principe actif, la radio associative de l'heure.
Et toujours dans ce forum de parcours vers l'emploi, vers la formation. Alors on a eu un petit changement de programme. Je vous avais promis que nous aurions le bus 56 juste après cette pause musicale. Non, il est en train de procéder à la visite du bus avec le préfet. Donc on chamboule un peu nos organisations. Mais c'est tant mieux parce que ça nous donne l'opportunité d'échanger avec Benoît. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors vous êtes un jeune qui avait bénéficié d'un accompagnement par la mission locale, suite à un CAP cuisine et assistant à la personne. Ouais. Vous êtes retrouvé en sortie de formation avec un petit peu cette espèce d'obligation d'entrer dans la vie active et finalement avec des doutes. Racontez-nous un petit peu cette sortie de CAP et comment ça se passe pour rentrer dans la vie active.
En fait, quand je suis sorti du CAP, j'ai voulu me rediriger vers la cuisine. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était au restaurant La Gazette, donc en centre-ville. Et du coup, j'ai fait des stages avant d'être pris. Une fois que j'ai été pris, du coup, on devait signer un contrat et tout. Mais du coup, j'ai pas été jusqu'au bout parce que je m'en sentais pas capable et parce qu'avec le patron, il y a un moment que ça s'était un peu mal passé.
Et puis, c'était plus l'envie.
Comment ?
Et puis, ce n'était plus votre envie.
Non,
ouais,
le fait de rester enfermé, ça m'a...
C'est ça, quand nous préparions cet échange, vous me disiez, non mais rester enfermé, c'était juste impossible. Quoi.
Oui.
Voilà. Vous avez une nature joviale, vous aimez...
J'adore m'amuser.
Voilà, vous amuser, rire, communiquer vers les autres.
Oui.
Et là, ça ne collait pas avec la cuisine. Alors là, ça pose un problème. Est-ce que vous savez directement ce que vous voulez faire à ce moment-là?
C'est vrai que la cuisine, au départ, c'est ce que je voulais faire, j'en avais envie. Mais une fois que j'étais dedans, je me suis rendu compte que... On ne pouvait pas s'amuser autant que je le pensais, parce que c'est vrai qu'en cuisine, on parle toujours de choses un peu décalées. Et du coup, moi, j'aimais bien parler de ces choses-là, je trouvais que c'était amusant. Mais quand j'étais dedans, j'ai vu que ce n'était pas vraiment ça. Et du coup, comme j'ai toujours voulu faire un métier dans l'animation, mais je n'avais pas le BAFA, du coup, je ne pouvais pas. J'étais à la mission locale donc, pour l'IEJ.
Pour
l'IEJ.
L'IEJ, c'est quoi donc ?
Alors, je sais, c'est dispositif.
C'est la garantie jeune, hein, c'est ça ?
Non, c'est autre chose.
Julien Guettier, donc conseiller IEJ à la mission locale. Donc, c'est un dispositif, l'IEJ, l'initiative pour l'emploi des jeunes, où l'on accompagne les jeunes durant 6 mois. C'est un accompagnement renforcé qui allie du collectif et de l'individuel. Donc, un accompagnement qui est un petit peu plus ouvert que la garantie jeune en termes de finalité, puisqu'on peut accompagner des jeunes à la fois vers l'emploi, mais aussi sur... la construction du projet professionnel et l'accès à la formation.
Donc voilà, entrer à la mission locale. Donc on a redéfini ce qu'était ce parcours. Ouais. Hein, c'est pas plus mal parce que je vous cache pas que moi, ça y est, je nage dans les abréviations. Hein. Depuis 2 jours, c'est un festival d'abréviations que nous nous efforçons d'éclaircir à chaque fois. Donc Benoît, vous arrivez à la mission locale, vous rencontrez Julien. Du coup, c'est tout de suite votre conseiller à vous ou pas ?
Non, au départ, j'avais un autre conseiller. C'était Gilles, mais du coup, il est parti à la retraite, je crois.
Oui, c'est Jean-Michel Gilles, donc conseiller qui avait... déceler ce besoin d'accompagnement chez Benoît et qui a orienté Benoît vers l'IEJ.
Alors Benoît, en quoi consiste cet accompagnement IEJ ? Vous me parliez d'IEJ. Concrètement, quand vous poussiez la porte de la mission locale, comment ça se passait ?
Au départ, l'IEJ, j'avais un peu de doute. Je voulais même partir un moment. Mais du coup, au final, je suis bien contente de ne pas être partie parce que du coup, on apprend à avoir plus confiance en soi.
Alors comment ? À travers quoi on apprend à avoir plus confiance en soi ?
On fait différents petites activités, exercices plutôt, on va dire. Et donc du coup, ça consiste à un moment, on devait faire un exercice, c'était de décrire son parcours avec des journaux. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu un peu de mal, mais du coup, au final, j'ai trouvé ça intéressant et on a pu parler de nous et devant tout le monde.
C'est important.
Je complète très rapidement. Donc, c'est un exercice qui s'appelle le vernissage, où le jeune raconte une expérience positive à laquelle il a participé, pour laquelle il a été acteur. Et l'idée, c'est un petit peu de se dévoiler une partie de son parcours et déjà parler devant les membres du groupe. Donc, voilà.
Et puis, ce qui n'est pas rien, de remettre en valeur un moment positif de sa vie, j'imagine, c'est plutôt sympa, quoi, d'être en réussite. Parce que quand on ne sait pas trop comment se réorienter, on ne peut pas réellement appeler ça encore quelque chose de positif, même si on est en questionnement et en avancement. Du coup, revenir sur une expérience positive, j'imagine que c'est plutôt pas mal.
Ouais. Mais c'est vrai que, au départ, pour moi, comme je ne trouvais plus de travail, je me suis dit, ça ne sert à rien, je ne vais jamais en trouver. Mais au final, ça se passe bien.
Alors du coup, suite à cette IEJ, il y a quand même un projet qui se dessine, il y a un parcours qui commence à se dessiner, Benoît.
Alors au départ, je voulais faire, c'était le parcours dans la vente, mais du coup, ils m'ont donné une fiche comme quoi Campbell recrutait des animateurs pour une saison d'été. Donc du coup, directement, j'ai dit oui, moi je vais le faire. Donc du coup, j'ai fait lettre de motivation et CV avec Julien. Et du coup, suite à ça, j'ai été pris, j'ai été sélectionné et j'étais à une journée de sélection. Et du coup, pareil, on a eu plusieurs petits tests, donc on devait mimer des expressions et tout. Et donc du coup, suite à cette journée, j'ai été pris et du coup, maintenant, je m'oriente dans l'animation parce que au fond, c'est ce que je veux faire.
C'est ça, vous y avez goûté et finalement, c'est plutôt pas mal, quoi.
Ouais.
Mais du coup, ça correspond plus à votre profil. Du coup, vous disiez, je suis quelqu'un de jovial, j'aime bien m'amuser, être dynamique. Donc, du coup, l'animation correspond à votre profil.
Alors, effectivement, Benoît était venu nous voir avec un projet plutôt vente. Et puis, durant la semaine de collectif, à travers la valorisation du parcours, on a aussi interrogé ses centres d'intérêt, ses goûts. Et puis, très vite, il nous a fait part de son intérêt pour le théâtre, pour l'animation, le fait d'aimer faire rire les autres, d'amuser un peu la galerie. Et de ce fait, on lui a proposé cette offre de recrutement d'animateur camping. Et il s'est montré très mobile puisqu'il a fallu faire le recrutement dans la Drôme. Donc il s'est déplacé, il a été très réactif. Le parcours s'est lancé comme ça. Et puis j'ai l'impression que ça ne va plus le quitter puisqu'il y a bientôt une formation et un contrat à étranger dans un club vacances, donc voilà, c'est un parcours très intéressant.
En Grèce, c'est ça ? Donc la mobilité va jusque là-bas finalement.
Ouais.
Ça, c'est un atout du coup, quand un jeune est mobile, je me retourne vers vous, Julien, j'imagine que c'est un atout forcément qu'on va exploiter.
Alors tout à fait, on travaille beaucoup sur les questions de mobilité. Alors il y a souvent la difficulté au niveau matériel, financement permis, achat d'un moyen de transport, mais il y a parfois aussi à travailler sur la mobilité, on va plutôt psychologique. Et là, en l'occurrence, Benoît, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. C'est une personnalité, c'est un jeune qui est prêt à aller chercher le travail très loin. Et ce qui lui va plutôt bien dans des métiers comme l'animation.
Vous évoquiez, Benoît, à l'instant que dans le parcours à venir, là, il y a de la formation aussi. Quel type de formation et du coup, comment ça a été déterminé, ce besoin de formation ?
Alors, la formation, c'est obligatoire, du coup, parce que du coup... je me lance dans ce métier, mais il manque quand même des compétences, donc principalement l'anglais. Et en fait, durant cette formation, du coup, on va apprendre à parler anglais, on va apprendre à avoir plus confiance en soi. Donc pour moi, ça commence à rentrer, ça a déjà commencé à rentrer à l'IEJ, parce qu'avant l'IEJ, j'avais pas vraiment confiance en moi, j'aimais pas quand les gens me regardent. Et du coup, du fait de ça, maintenant, je marche la tête haute. Et du coup, voilà. Mais sinon, du coup, la formation de 5 mois, donc c'est une formation de 5 mois, elle va nous servir donc à savoir animer des soirées correctement.
Avec un peu de méthode, j'imagine.
Ouais. Et puis même quel type de soirée on peut faire, donc soirée mousse, soirée dansante, un peu de tout. Du coup, ils vont nous apprendre tout ça. Et principalement l'anglais.
Très important. Le contrat qui est en cours de signature, alors c'est pas encore tout à fait fait, mais ce serait pour
là,
partir
si
en Grèce.
C'est
si ça y est, c'est goupillé.
Là, en fait, j'ai signé le contrat pour la formation de 5 mois.
D'accord.
Et ensuite, en fait, on peut pas vraiment arrêter parce que pendant la formation, on va être payé. Et si on part, on devra rembourser tout. Mais je suis un jeune qui va jusqu'au bout. Donc,
voilà. Donc après, vous allez travailler en Grèce, c'est ça ?
En Grèce.
Sur la saison d'été qui arrive, comment ça fonctionne ? Ouais, c'est par saison que ça fonctionne ?
Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, mais en fait, on va partir donc 7 mois. Et du coup, après les 7 mois, pendant les 7 mois, ils voient l'entreprise avec qui on a travaillé, que ça s'est super bien passé, ils vont nous proposer un contrat hiver.
Bon, c'est plutôt pas mal, ça. Oui. Donc, du coup, un parcours de 6 mois a suffi pour Benoît à déterminer tout ça. C'est comme ça que ça s'est goupillé. En 6 mois, on a réussi à mettre en place tous les éléments qui ont permis ensuite à Benoît d'accéder à tout ça.
En l'occurrence, oui, il y a eu un déclic chez Benoît et il s'est vraiment trouvé sur l'IEJ lors du collectif. En l'occurrence, oui, c'est un parcours qui a bien fonctionné, donc on en est très heureux. Alors, pour compléter ce que disait Benoît, il y a aussi, dans le cadre de la formation suivie du contrat de travail, la validation d'un titre professionnel, d'une certification de niveau bac. Donc, au-delà de l'emploi, il y a aussi la qualification et la validation de cette expérience. Donc, voilà.
Donc oui, c'est plutôt pas mal, du coup. Globalement, est-ce que sans cet accompagnement de Monsieur Gilles et puis de Julien ensuite, est-ce que sans cet accompagnement, vous auriez pu en arriver aux mêmes conclusions ?
Non, parce que du coup, dans l'animation, je ne savais pas trop comment m'y prendre pour y rentrer. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, si j'aurais pas eu Julien et la mission locale, je serais toujours en même stade.
Voilà, à se dire, la cuisine, c'est pas top, mais c'est ça mon métier.
C'est ça.
Bah, très bien, en tout cas, ça fait plaisir de voir aussi ces sorties positives. Oui. Je sais pas, il y avait ce terme-là qui avait été employé hier, notamment par votre collègue Younes, de la mission locale, qui disait, c'est ce qu'on appelle aussi des sorties positives. C'est un accompagnement pas forcément standard. Ce que j'ai ressenti, c'est que c'était individualisé quand même, ces accompagnements.
Tout à fait.
Est-ce que la méthode quand même est globalement la même et puis on diverge ou vraiment c'est très individualisé?
Alors, on va parler de tronc commun sur ce qu'on fait sur le collectif. L'idée, c'est vraiment sur le collectif la valorisation du parcours. Benoît a évoqué la confiance en soi. On se rend compte qu'il y a parfois, même souvent, un déficit de confiance en soi chez les jeunes. Donc le collectif, c'est un tronc commun. L'idée, c'est de vraiment lancer une dynamique, la dynamique de groupe impactant la dynamique individuelle. Et après, effectivement, on va être sur de l'individualisé puisque les objectifs de chacun diffèrent. Emploi, formation, projet. Donc on est effectivement dans l'individualisation du parcours.
Est-ce qu'on peut considérer, Benoît, que ça y est, vous êtes sur la bonne route, que tout va bien, ou finalement il y aura peut-être encore un petit coup de patte, encore un peu de sollicitation de la mission locale, ou on considère que ça y est, c'est parti, la vie s'ouvre devant vous?
Je ne vais pas considérer que c'est parti, mais pour moi c'est plutôt lancé, donc du coup voilà. Donc je pense avoir encore un peu besoin de la mission locale, mais sinon pour moi ça va.
Il y a cette possibilité-là, une fois que, comme Benoît, par exemple, qui a l'air d'avoir un parcours plutôt bien lancé, là, il a l'air d'être sur les bons rails, il y a toujours cette possibilité de revenir un petit peu, checker la mission locale.
Bien entendu, on reste ouvert pour l'accompagnement jusqu'au 26e anniversaire. Les demandes qui peuvent être faites auprès de la mission locale et les axes sur lesquels on accompagne font que oui, ils pourraient être amenés à nous solliciter, puisque au-delà de l'accès à l'emploi, à la formation, on travaille aussi sur l'accès au logement, l'accès à une couverture sociale pour certains jeunes, sur les questions de santé, de citoyenneté. Donc oui, bien entendu, il peut être amené à venir nous revoir après pour des questions qui auraient trait à l'un de ces axes.
Voilà. Sur l'hébergement, a priori, il va en camping, c'est réglé.
Pour le moment, ça va aller. Il est logé, on ne va pas se soucier de ça pour l'instant.
Merci beaucoup, Benoît, d'avoir échangé sur votre parcours, qui fait plaisir à entendre en plus. Donc, merci beaucoup à vous, Benoît. Merci beaucoup, Julien Guettier. De la mission locale. Donc, vous êtes conseiller en insertion professionnelle.
Tout à fait.
Merci beaucoup à vous d'avoir échangé avec nous sur, une fois de plus, des parcours qui font plaisir à entendre. Merci.
Merci à vous.
Monsieur Pignon, je me retourne vers vous et vous invite peut-être à nous proposer une pause musicale si cela vous convient. Et en sortie, nous écoutions le parcours en sortie de Rosa hier, qui échangeait sur comment elle projetait d'arriver jusqu'à la mission locale.
Tout dans une mansarde n'importe où est mon Père Noce. que je suis né un jour sous les toits et que j'ai pour la première fois ouvert les choses. Mes pères et mères, des chars comme tout, qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace. Alors des repas dans notre gare noble, c'est souvent sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. Alors joue tous les autres marmots à l'école bonce pour un cerveau de bonne grammaire. Avec un tas de mauvais loupiaux, dans les coins on allait jouer au père et la mère. Sûrement que ces petits jeux innocents ne développent pas précisément les belles manières. À 15 ans droite sur mes cerveaux, j'allumais tous les gigolos, l'œil effronté comme un moineau. Celui qui a voulu ma vertu pour me posséder n'a pas eu à faire de siège. Il n'a eu qu'à m'ouvrir les bras et mon amour est tombé là comme dans un piège. Si j'avais l'esprit perverti, mon cœur au contraire était lui pur comme la neige. Nous éveillant sous les bécots, nous allions à tous les échos chanter l'amour comme les moineaux. Il m'a plaqué, a-t-il eu tort? Je me suis consolée d'un sort qui est le nôtre. Avec un petit gars dessalé qui, lui, pour ne pas travailler, vendit à d'autres. On s'accoutume à ne plus voir la poussière grise du trottoir où l'on se vautre. Alors, sur le pavé parigot, on cherche son pain dans les ruisseaux. L'œil aux aguets, comme les moineaux. L'hiver viendra et mon seul bien, ce pauvre corps qui, je le sens bien, déjà se lance. Tombera sur le palais brutal, pensera sur un lit d'hôpital, un soir d'angoisse. Pas plus mauvaise que beaucoup, j'aurais préféré malgré tout, dans ma détresse, un homme qui m'eût aimé d'amour. Avec lui finir mes jours dans un nichon comme moi.
Voilà, la grande Fréhel, comme on dit dans le milieu, avec le titre « Comme un oiseau ». Merci Pignon pour cette sélection étonnante.
Principe actif.
La Bretagne sur Iton, 95.9.
Alors moi, je vais arrêter de faire des prévisions sur ce que vous allez retrouver après ou avant les pauses musicales, parce que de toute façon, à chaque fois que je vous annonce qu'il va se passer quelque chose, ça ne s'annonce pas. Rosa, nous la retrouvons dans un petit instant, parce que nous ne ferons pas l'impasse sur le témoignage de Rosa que nous avons collecté hier à Navarre. Mais je vous avais annoncé aussi le bus 56 en tout début d'émission. Nous recevons Ludovic. Bonjour Ludovic. Alors vous êtes Bonjour. Le chauffeur animateur de ce bus 56.
Oui.
Qui est un bus, alors, comme son nom l'indique, qui est mobile, qui se déplace dans tout le territoire d'Évreux-Porte de Normandie pour amener des réponses, ou en tout cas amener à ce que les gens trouvent des réponses sur les questions d'emploi au sens le plus large. Je dis pas de bêtises.
Au sens le plus large, exactement. Le but, c'est de reprendre contact justement avec les gens, ceux qui pourraient avoir des problèmes de mobilité, ceux qui sont éloignés de Pôle emploi, des gens qui voudraient à un moment donné se dire on cherche des informations sur tel ou tel point. Voilà, j'ai tel ou tel frein dans mon CV. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne vais pas recontacter. Le but, c'est justement de reprendre contact avec les gens et c'est pour ça qu'on a mis en place un bus plutôt qu'une permanence dans une mairie. Voilà, pour qu'il soit visible, pour que ce bus, le 56, soit visible quand on est place de la mairie à Chavigny-Bailleul. On est très visible, donc les gens en passant peuvent nous voir. Et puis reconnecter les gens un petit peu à l'outil informatique. Et puis à Internet, puisqu'aujourd'hui, pour faire une recherche d'emploi ou postuler, on a besoin de l'outil informatique.
Quand on dit l'emploi de manière large, c'est l'emploi, c'est freins, c'est mise en place, et puis la partie aussi peut-être préparation à aller jusqu'à l'emploi, parce que tous les publics ne sont pas, en tout cas tout le monde n'est pas prêt tout de suite à prendre un emploi, il y a parfois des freins comme vous l'évoquiez. Qu'est-ce qu'on entend par freins et sur quoi vous pouvez travailler dans le 56 ?
Alors le frein principal en effet, c'est des fois l'éloignement. Hein. Donc là, on a des partenaires avec lesquels on travaille, comme WeMove. Hein. On a des personnes qui n'ont pas de permis et qui du coup dans leur giron d'emploi peuvent avoir des difficultés à se déplacer. On a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc ils n'ont pas forcément de véhicule. Ils ont le permis, mais pas forcément de véhicule. Donc là, WeMove peut intervenir. Donc c'est là où on a besoin, nous, le 56, d'avoir un bon nombre de partenaires autour de nous. Donc je ne vais pas tous les citer, hein, mais d'avoir du relais derrière nous, puisque ce 56 permet de reprendre uniquement le contact avec les gens et derrière nous, on travaille avec ses partenaires. On parlait de freins. Moi, ce que je n'avais pas envisagé quand j'ai pris la fonction, c'est de dire même des personnes qui ont Bac+3, Bac+4, Bac+5 ont des difficultés d'emploi. Voilà, il faut s'en rendre compte. Et des fois, rien que leur CV ne correspond pas forcément à l'offre recherchée ou à des critères un petit peu de présentation. Donc le but, c'est justement de retravailler sur tous ces freins-là que les gens n'avaient pas forcément envisagés.
Le prix du ticket de bus, il est de combien 56, sur le 56
56 euros. 56, non. Et donc ce bus, évidemment, est gratuit. L'accompagnement est gratuit derrière. On ne parle pas de frais. Il n'y a pas de frais d'impression, par exemple, pour imprimer son CV dans le bus. On permet aux gens d'utiliser Internet autant qu'ils le veulent. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, justement, c'est un service amené par l'agglomération d'Aéroports de Normandie.
C'est un ticket gratuit.
C'est un ticket gratuit.
Bon, cela dit, il ne bouge pas beaucoup quand on est monté dedans. Donc, c'est un peu normal qu'il soit un peu gratuit, le ticket.
Exactement.
Du coup, concrètement, c'est un vrai bus qui se voit de loin, avec un auvent qui permet un accueil même les jours de pluie. On l'a testé tout à l'heure, hein, le auvent jour de pluie. Et concrètement, comment ça se passe? On rentre dans le bus et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, on accueille les personnes. Donc là, le but, c'est justement de regarder un petit peu avec les gens ce qu'ils ont besoin. Des fois, ça va juste être d'imprimer une offre ou de postuler sur une offre. Le but, c'est de reprendre contact, je vous le disais. Donc, on essaye de demander aux gens de mettre leurs coordonnées téléphoniques ou mail, etc., pour être recontactés. Et puis, d'essayer de voir avec nous, d'identifier un petit peu un domaine de recherche. Alors, des fois, il y a des gens qui rentrent en disant « je voudrais une formation ». Oui, mais une formation, voilà, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi faire, etc. Donc le but, c'est de remettre un petit peu tout dans l'ordre pour que, je vous le disais, envoyer vers le meilleur partenaire, en fait, le partenaire le plus adapté pour accompagner la personne. Là, vraiment, derrière, nous, on donne une information et le partenaire vers qui on renvoie la personne est chargé d'accompagner. Hein.
Du coup, les accueils sont très individualisés, j'imagine. Enfin, il n'y en a pas de pareil d'accueil.
Exactement. Il y a des accueils qui peuvent durer 2 minutes. Et puis, tout à l'heure, je suis resté presque 3 quarts d'heure avec une personne. Donc, on a un accueil. Alors après, il faut que le temps le permette et le nombre de personnes le permettent, puisque le but, ce n'est pas qu'on ait la queue devant le bus. Hein. Le but, c'est juste de reprendre contact et de voir ce qu'on peut faire pour la personne. Mais ce n'est pas forcément dans l'immédiat qu'on peut faire quelque chose. C'est peut-être en la rappelant, parce qu'il y a une réunion d'information mise en place par l'agglomération, parce qu'un partenaire met une formation en place dans les jours à venir, parce que des choses comme ça. Voilà. Donc, Le but, c'est vraiment arriver à trouver l'information qui va correspondre à la personne et lui enlever potentiellement un frein à l'emploi.
Alors, on l'a bien compris, ce bus, c'est pour rapprocher aussi l'information des usagers, des citoyens, des personnes qui en auraient besoin. Comment est constituée cette tournée de bus? Voilà, je sais pas, j'habite à... J'en sais rien, moi. Voilà, vous parliez d'ailleurs de Chavigny-Bagnoles. J'habite là-bas. Quand est-ce que je vais voir le bus? Où? Comment? Enfin, est-ce que je peux trouver cette information en amont?
Oui, alors l'information, on la trouve sur le site evreux-normandie-emploi.fr. Hein, donc là où il y a le calendrier et la carte du bus qui nous permet d'identifier les lieux et la temporalité. On passe sur les lieux d'arrêt, donc on a 19 lieux d'arrêt, on passe une fois par mois. Et une fois toutes les 3 semaines dans les 3 quartiers politiques de la ville d'Evreux.
À savoir la Madeleine, Nétreville et Navarre.
Voilà. Donc une fois toutes les 3 semaines sur ces 3 quartiers, une fois par mois sur les autres communes, donc 16 autres communes après Evreux. Et nous, ce qu'on a cherché, évidemment, c'est à voir où il y avait un besoin d'aller. Donc demandeurs d'emploi, personnes bénéficiaires du RSA. Et puis de couvrir le territoire d'Evreux-Port de Normandie pour que les gens soient à proximité du bus. Hein, du 56. Donc l'idée, c'est de ne pas être très très loin pour qu'il y ait une possibilité de venir nous voir.
J'imagine, et je vais quand même vous poser la question, est-ce qu'il y a une restriction dans l'accès à ce bus? Est-ce que c'est ouvert à tous les publics sans restriction ou il faut quand même être dans des cases pour pouvoir y accéder?
Alors, le premier public évidemment qu'on cherche, ce sont les gens qui habitent Évreux-Porte de Normandie, puisque c'est le 56 est mis en place par l'agglomération. Maintenant, nous ne refusons pas les gens qui habitent très proche et qui montent dans le bus spontanément, puisque des fois, ce sont des gens qui vont trouver réponse aussi. Hein, donc, on ne les refuse pas. Par contre, on ne va pas forcément informer ces gens-là que nous sommes présents. Voilà. Les communes limitrophes à l'agglomération ne sont pas prévenues de notre passage, alors que toutes les communes de l'agglomération sont prévenues, elles.
Pas de restriction d'âge, de situation professionnelle ou de statut social ou je ne sais quoi?
Non, aucune restriction sur ces points.
Très bien. J'ai une dernière question quand même qui me paraît essentielle. Pourquoi le bus 56? On veut avoir un peu les détails. Hein. Il y en avait 55 avant que vous avez crashé sur le bord d'une route.
Voilà, exactement. On a fait 55 essais d'abord. Le 56, c'était donc son numéro d'exploitation chez Transurbain. C'est-à-dire, il voulait savoir quand est-ce que le 56 devait passer en vidange. Donc, on a gardé l'historique. Et comme on essaye de plus communiquer avec le mot bus, mais le 56, on a voulu garder justement ce petit attrait de dire c'est une ligne quand même, c'est une espèce de ligne de bus, voilà, bien qu'on ait stationné sur des lieux pendant une des demi-journées. Voilà. Alors, je voulais revenir aussi sur un point de complémentaire, donc le nom du bus, le 56, voilà, numéro d'exploitation chez Transurbain, mais je voulais dire aussi que le bus sera aussi sur des événements. On a ce circuit régulier une fois par mois, etc., mais le bus est présent aussi sur certains événements et avec certains partenaires, donc ça nous permet de retrouver d'autres publics, donc comme ce matin, par exemple, sur la place Kennedy, c'est un événement, voilà.
Très bien, merci beaucoup Ludovic d'être passé par nos micros. Je rappelle, vous êtes, on dit animateur d'ailleurs, on dit conseiller, animateur et chauffeur de ce 56. Merci beaucoup à vous d'être passé par nos micros.
Merci.
Monsieur Pignon, nous avions promis d'entendre Rosa tout à l'heure, cette jeune qui témoignait hier sur son parcours. Nous ne l'avions pas diffusée en direct, nous l'avions captée hier à Navarre. Je vous propose que nous l'écoutions maintenant. Rosa, vous avez 20 ans, vous êtes en plein parcours d'orientation, vous avez eu l'occasion de faire des stages, des mises en situation professionnelles, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. Vous êtes hébroïcienne depuis peu de temps et vous êtes en pleine recherche. Nora a été une personne que vous avez rencontrée assez rapidement, donc éducatrice spécialisée du département de l'Eure. Alors, comment s'est passée la rencontre et comment vous êtes saisie de cet accompagnement?
Oui, c'était Nora, la première personne que j'avais rencontrée sur Évreux, dès mon arrivée. Du coup, avant, j'étais sur Angers et y avait un réseau qui m'avait orientée vers Nora. C'était mes éducateurs aussi sur Angers. Et dès que je me suis arrivée sur Évreux, tant que je ne connais pas la ville, je ne connais pas le secteur, donc j'avais aucune idée. C'est comme une page blanche, quoi. Et j'ai trouvé que Nora à côté de moi qui m'oriente tout le temps, qui m'indique en fait je peux me trouver ce que je veux et de quoi je cherche. Du coup, elle m'avait suivie pendant une période jusqu'à aujourd'hui, quoi.
Quelles étaient, du coup, vous arrivez sur Évreux, vous disiez c'était une page blanche qui était face à vous. Et vous aviez besoin de la remplir avec quoi, cette page blanche, et en quoi Nora est venue vous aider?
Oui, c'est une page blanche parce que il faut que je refais toutes mes démarches, quoi, parce que j'étais sur Angers et dès que je me suis arrivée sur Évreux, il faut que je refais tout ce que j'avais fait sur Angers. Et tant que moi, je connais rien du tout sur Évreux, donc pour que je puisse refaire tout, donc j'ai besoin quand même.
Alors, refaire tout, c'était quoi?
Par rapport, premièrement, c'est connaître d'abord mes projets ici, parce que dès que j'ai changé de ville, j'ai changé même des projets que j'ai envie de faire par rapport à mes études, par rapport aux formations que je voulais faire.
Vous aviez un bac scientifique, c'est ça, avec des spécialités dans l'informatique, notamment.
Ouais.
C'est ça, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous corrigez quand je dis des bêtises. Et finalement, il y a une réorientation qui s'est fait dans votre tête, en tout cas. Et du coup, comment la mettre en place?
Avant, j'ai fait des études en mathématiques informatiques, en bac scientifique. Et j'ai pensé à travailler dans les réseaux et tout. Et dès que je me suis arrivée ici, sur Évreux, j'ai une petite expérience. J'ai travaillé en CCS d'Évreux auprès de la mairie pour l'aide de domicile des personnes âgées. C'était juste un CDD de 2 mois, mais c'était pour moi une période qui m'a changé même ma vie complètement, parce que j'avais envie de changer d'orientation pour mes études et j'ai envie de faire autre chose carrément. C'est parce que je préfère le travail social. Quand j'avais travaillé avec les personnes âgées, c'est trop bien et ça me plaît vraiment. Et du coup, j'ai dit à Nora, bon, comme d'hab, je reviens vers Nora. J'ai dit, Nora, j'ai changé des pensées, j'en veux plus travailler dans les mathématiques informatiques. Tu vois ça, mais c'est quoi ça? Mais j'ai fait un CDD pendant 2 mois au CCS d'Ivreux et avec des personnes âgées, ça me plaît bien. Je sais maintenant que le travail social, ça me plaît mieux que le travail autrement dans le commerce, autre chose.
Du coup, vous aviez un premier projet, c'était d'être infirmière, si je ne m'abuse. Mais il faut des étapes.
Tout à fait. Bah, j'ai envie d'être infirmière. Mais pour moi, ça me fait un petit peu... je le vois que je ne peux pas directement passer un concours infirmière. Et j'ai dit, je passe par des étapes, ça sera mieux. Et comme ça, je suis sûre de l'avoir. Comme ça, j'ai dit, je passe concours infirmière. Je sais que mes compétences, je peux l'avoir. Et après, dès que j'aurai le concours d'aide-soignante, là, je peux aussi continuer à être infirmière.
C'est-à-dire que dans l'étape, voilà, pour ce fameux objectif d'infirmière, l'étape aide-soignante est quelque chose de, voilà, qui sera plus abordable rapidement et qui va être mis en place. Alors du coup, sur votre parcours pour être aide-soignante, surtout après cette expérience que vous avez eue, y a des choses quand même à mettre en place sur le parcours. C'est pas tout de suite, en tout cas tout de suite, vous n'accédez pas tout de suite à un poste d'aide-soignante là tout de suite.
Oui, tout simplement. Oui.
Alors du coup, il y a des gens, des structures que vous rencontrez sur votre parcours. Je crois qu'il y avait un problème de mobilité également au bout d'un moment parce que vous n'avez pas le permis de conduire.
Quand je travaillais au CCS, j'avais un problème que je n'ai pas le permis. Et pour que je puisse travailler dans le CCS d'Evreux, parce que c'est du déplacement plus de 10 personnes par jour, à Navarre, Centre-Ville, Madeleine et tout. Donc je me suis orientée, c'est Nora qui m'avait orientée vers WeMove. Avant, je ne connais pas WeMove. Sur Angers, il n'y avait pas WeMove. Donc, Nora m'avait orientée vers WeMove. Et du coup, ils sont très sympas aussi à WeMove. Et ils m'ont proposé, tant que je n'ai pas le permis, donc un vélo électrique qui m'a vraiment aidée pendant ma période de travail. Malgré que c'était fini avec...
Malgré
que c'était fini avec un accident.
Travail. Oui, ça s'est fini avec un accident. Avec le vélo?
Oui.
Vous leur avez plié le vélo? C'est
non.
Ça.
Ouais.
Ils ne vous en veulent pas. Ah oui, WeMove, ils ne vous en veulent pas d'avoir eu l'accident avec le vélo.
Non.
Non, bon, tout va bien.
Mais c'était trop bien avec les vélos électriques parce que sur Évreux, c'est difficile de prendre un vélo normal. C'est des cols partout. Du coup, ça va vraiment aider à. Du coup, pendant toute la période du travail, j'avais travaillé avec un vélo électrique, tout simplement, oui.
Aujourd'hui, après ces expériences, après avoir défini votre projet professionnel, en passant notamment par la case aide-soignante, vous postulez également sur un dispositif qu'on appelle Garantie Jeune. Ouais. Alors pourquoi? Comment il intervient dans votre parcours?
En fait, la Garantie Jeune, depuis longtemps, j'ai ma conseillère à l'émission locale, qui sont aussi très gentilles, ma conseillère Myriam Jiguel aussi, elle m'avait proposé depuis longtemps de la Garantie Jeune. Mais moi, tant que je n'ai pas le temps pour le faire, parce que la Garantie Jeune, c'est comme engagement de rentrer pour la formation pendant un temps plein. Et moi, je ne peux pas m'engager à temps plein tant que j'ai beaucoup de papiers à faire en plus et tout. Et là, maintenant, j'engage à faire la Garantie Jeune parce que... Au bout d'un moment, je me trouve que je suis perdue entre deux choses, comme mon permis et la Garantie Jeune, l'émission locale. Donc aussi, je ne peux pas prendre une décision toute seule. J'ai parlé avec Nora, ma conseillère et tout. J'ai dit comment je peux faire. Bon, moi, j'ai besoin de permis pour travail. Et en même temps, j'ai besoin aussi de Garantie Jeune aussi qui m'encadre. Et comme une garantie pour moi d'avoir un emploi, être autonome, d'avoir un appartement, autre chose. Donc, à priorité, c'est la Garantie Jeune qui est plus importante pour moi et parce que ça me ça me permettra d'être autonome. Et en même temps, je peux après passer mon permis tranquille après avoir des sous à côté. Donc, je m'engage à faire ça.
Alors, votre lien avec la mission locale est assez étroit. Vous me disiez tout à l'heure, quand nous préparions cet échange, j'allais à la mission locale tout le temps, quoi. Enfin, je sortais, je restais pas à la maison, je sortais oui. La garantie jeune.
Bah, en fait, c'est pas la garantie, mais j'ai pas la mission
locale. Pas la garantie jeune, pardon, la mission locale, oui.
Bah oui, en fait, parce que eux, ils ont un espace pour les jeunes, pour qu'ils puissent aussi utiliser des ordi et tout pour faire leurs recherches et pour accéder beaucoup de choses. Bah moi je pars aussi pour préparer mon CV, utiliser les ordi là-bas aussi pour avoir il y a des petites expériences, par exemple bien-être, aussi confiance en soi et toutes ces petites expériences de 2 jours, 3 jours, mais aussi ça nous permettra aussi d'échanger avec les jeunes qui sont comme moi aussi dans les mêmes difficultés, dans la même situation, quoi.
Tout à l'heure, quand nous préparions cet échange, vous m'avez dit je sortais aussi pour créer l'opportunité, tout simplement, quoi. C'est en fait, en sollicitant, en étant présent, finalement, on crée aussi l'opportunité à travers tous ces petits éléments que vous arriviez à attraper, quoi. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti en tout cas sur cette sensation de dire j'y vais parce que de toute façon, ça crée quelque chose.
Parce que oui, tant que moi, je suis arrivée, c'est vrai que je n'avais pas de travail, je ne connais pas du tout, mais je n'ai pas resté à la maison comme ça, parce que si je reste à la maison, en tout cas, je ne vais rien avoir, je ne vais pas savoir, je ne vais pas connaître. Donc, malgré que je n'ai rien à faire, je sors, je pars, je vais à Nora, je vois des jeunes à l'émission locale pour chercher à voir, connaître des choses. Peut-être qu'il va m'aider après. Et aussi, c'est vrai ça, parce que malgré que je n'avais rien à faire, j'étais au bien-être, aux confiance en soi. Et j'ai pris tout le temps, je prends des petites choses, malgré que ce n'est pas des grandes choses, mais aussi qui me changent aussi. C'est en fait des petites expériences, mais aussi qui m'aident à changer des idées.
Tamik Rest. Le morceau s'appelle Imanin Bas Zioun et ils sont toujours en concert ce vendredi soir du côté du Cube à Évreux. On vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 02 32 62 57 32 en laissant vos noms et coordonnées pour avoir une invitation, deux invitations à gagner pour ce concert de vendredi soir au Cube.
Vous êtes généreux, monsieur Pignon. Et ça, c'est beau.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose, c'est la radio culturelle qui donne à penser, qui donne à réfléchir.
Le mix des cultures.
Voilà, nous sommes toujours en direct, en live et en public, j'aime le dire ça, de ce forum autour du parcours d'emploi et de formation. Nous rencontrons tout un tas d'acteurs qui font partie de ce paysage. Nous avions capté hier à nos micros également des témoins de ces parcours, des personnes qui ont eu l'occasion de rencontrer des gens sur leur parcours afin de parfaire l'accès à l'emploi. Je suis en train de chercher, tout en vous parlant, le prénom de notre ami qui avait témoigné hier.
C'est Anthony.
C'est Anthony, exactement. Anthony qui a un parcours aussi assez particulier et que je vous propose d'écouter maintenant, monsieur Pignon, si vous le voulez bien. Alors Anthony, vous avez eu l'occasion d'être accompagné par la CIBC suite, alors vous le disiez vous-même en préparation, à une déconnexion.
Oui, une déconnexion
dans le milieu
de la partie active en fait de la vie professionnelle en fait.
Voilà. Et puis vous avez reconnecté à travers tout un tas de dispositifs.
Voilà, exactement, grâce à la Maison des Solidarités et du département de l'Eure. Où ils nous ont réorienté suite à la programmation du suivi du RSA. De là, on est passé par plusieurs étapes. Réunion d'information qui a permis de nous orienter vers un référent. Et puis orienté vers le CIBC. Ça suivait en étapes, on va dire.
Alors des aléas de la vie font que vous avez déconnecté, comme vous le disiez vous-même. Est-ce que quand on est dans cette phase de déconnexion, on est prêt à retourner à l'emploi directement, ou est-ce que toutes ces étapes sont vraiment nécessaires, et qu'est-ce qu'elles apportent ces étapes?
On passe par des étapes de doute, savoir ce qu'on veut faire, se rechercher professionnellement, se rechercher soi-même, chercher les outils.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a eu une période de doute telle que vous n'étiez plus prêt directement à aller à l'emploi.
Ah ouais, tout à fait, voilà. J'étais carrément déconnecté, je l'avoue. J'étais carrément déconnecté de la réalité. J'avais un ras-le-bol, un ras-le-bol total, quoi, en fait.
Certains aléas de la vie qui peuvent arriver à cette situation. Alors, comment s'est passé? Donc, vous étiez bénéficiaire du RSA.
Oui, tout à fait.
Et dans ce cadre-là, vous avez été sollicité pour une première réunion d'information?
Oui, en fait, j'ai reçu un courrier du département de l'Eure pour me convoquer pour une réunion d'information au siège d'Évreux Portes de Normandie, donc de l'agglomération, avec d'autres personnes qui étaient bénéficiaires. On a eu un petit questionnaire, une explication un peu du pli.
Alors le plan local d'insertion à l'emploi.
Exactement. Et de là, après, on a eu un entretien individuel avec un conseiller qui nous a orienté vers le référent le plus approprié pour nous suivre, en fait.
Est-ce qu'à ce moment-là, dans votre parcours, il y a déjà un objectif professionnel ou pas encore? On est encore dans se chercher.
J'étais en train de... Quand je suis arrivé dans le pli, en fait, j'étais entre rester dans mon domaine et me réorienter. Donc dans différents domaines, parce que je suis photographe amateur aussi, j'étais en train de voir pour me réorienter vers la photographie en tant que professionnel. Et puis pour l'instant, c'est mis un peu en stand-by, le temps de me remettre vraiment dans la vie active, et puis après on verra par la suite.
Du coup, voilà, premier rendez-vous, un accompagnement avec un conseiller personnel, ça veut dire c'est quelqu'un personnel, j'entends, c'est quelqu'un unique, ça veut dire que quand on va avoir une question ou quand on va avoir d'un contact, c'est avec cette personne-là systématiquement.
Il y a eu un petit changement de de conseiller entre deux, donc c'est vrai que il a fallu recréer un lien de confiance, et puis parce que c'est pas toujours facile de changer en cours de parcours.
J'imagine que ça doit être important que ce soit personnalisé.
Oui, parce que ça permet de déjà il y a une instauration de confiance entre le conseiller et puis le bénéficiaire, et puis ça permet d'avancer de l'avant de au jour le jour. Je sais que par exemple il y a besoin avec Madame Andin, je peux la contacter dans la journée, je peux la contacter par mail sans problème. Pareil de son côté, quand elle a besoin de me joindre, on arrive à se fréquemment. Il y a les rendez-vous qui s'orientent dans le temps, et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment un appui primordial, quoi.
Alors, le circuit est enclenché, il y a eu un premier rendez-vous, oui. il y a eu ce premier conseiller, la Maison des Solidarités aussi, qui a proposé un accompagnement.
Ouais, voilà, exactement. Et puis, l'aglo, faut pas le cacher, hein, Evreport de Normandie, qui fait que ça bouge aussi pour les jeunes et puis pour les bénéficiaires du RSA. Donc, faut pas non plus négliger là-dessus. On a une chance d'avoir une aglo qui bouge pour le milieu professionnel et l'emploi et l'action sociale, donc c'est pas le cas dans tous les départements et dans toutes les agglomérations, on va dire.
Cet accompagnement commence, se poursuit. Il y a, j'imagine, le projet professionnel commence à se dessiner au bout d'un moment. Oui. J'imagine que quand un projet professionnel commence à se dessiner, il y a une confiance aussi en soi qui revient, peut-être justement
renaît,
ce petit maillon.
On va dire, c'est pas qui revient, c'est surtout qui renaît, parce que on passe par des phases de doute, de renonciation, et on déconnecte totalement de la réalité, quoi.
Concrètement, quels ont été les moments que vous avez eus ? Alors, je sais qu'il y a eu une mise en situation professionnelle,
oui,
il y a eu des stages autour de la communication, si je ne m'abuse.
Il y a eu
des choses dans ce sens-là.
Ah, oui.
Qu'est-ce qui, concrètement, s'est mis en place entre le premier rendez-vous et aujourd'hui ?
Premier, ça a été le placement du projet, du parcours qu'on devrait faire sur toute la période, enfin, étape par étape, on va dire.
Donc il y a un plan qui a été fait, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, il y a eu on a fait un échelonnement en fonction des rendez-vous. Donc premier, ça a été remise du CV à jour, lettre de motivation, parce que c'est important pour remettre le pied à l'étrier. Affiner la recherche d'emploi, qui est important aussi. Et puis après ça a été recherche pour en l'occurrence pour la PMSMP, donc la période de mise en situation en milieu professionnel, où recherche d'une société. Et puis premier contrat, première PMSMP de 15 jours, prolongé suite à la demande du professionnel, donc c'est un encouragement en plus.
Oui, c'est un bel encouragement.
Ouais, voilà, c'était super. Et puis je connaissais déjà un petit peu l'équipe de l'entreprise, donc c'est vrai que ça aide un petit peu, ça met en confiance. Mais après ça a été un petit contrat aussi derrière qui a remis encore un peu plus de baume au cœur. Donc c'est tout à fait un plus, quoi.
J'imagine, voilà, de fil en aiguille, on reprend confiance, et puis surtout on renoue avec l'emploi finalement.
Oui.
Aujourd'hui, Anthony, où en êtes-vous dans ce parcours ? Et puis, alors, aussi bien dans le parcours que professionnellement, du coup ?
Toujours en recherche d'emploi. Là, j'attends une réponse pour un recrutement, donc mis en place grâce à Madame Landa. Qui m'a orienté vers une offre d'emploi et dont j'ai eu un interlocuteur de la société en question pour le recrutement. Donc j'attends une date pour la prochaine session de recrutement qui devrait arriver d'ici quelques temps. Je sais pas encore. Parce que c'est sur une période de 3 mois qu'ils font un recrutement. Voilà.
Du coup, est-ce que cet accompagnement est terminé pour vous ou il poursuit encore sur la mise en place de l'emploi ?
Pour l'instant, il n'est pas encore fini. Il se maintient toujours jusqu'au mois prochain. Après, il y aura une réorientation vers un conseiller professionnel, un conseiller emploi, qui devra prendre effectif normalement fin novembre, je pense.
Voilà, c'était encore du témoignage et d'Anthony notamment, que nous avions collecté hier à Navarre. Nous sommes aujourd'hui en direct, en live, en public de la maison de quartier de la Madeleine, où bien entendu nous vous invitons à nous rejoindre autour de ce forum sur les parcours d'emploi et de formation. Nous serons également demain au gymnase Jean Barre à Netreville, et je reçois Moussa, animateur du dispositif CitéLab, animateur plus largement à la Pépite. Bonjour Moussa.
Bonjour.
Alors, en quelques mots, on aborde ces questions d'emploi aujourd'hui, et on avait l'occasion de s'y pencher l'année dernière, je crois, ensemble, à l'occasion d'un anniversaire de CitéLab.
Tout à fait.
Certains créent également leurs emplois, et finalement nous avions été marqués, nous, de voir que c'était accessible assez simplement, qu'en fait un chef d'entreprise de son propre emploi, notamment sur des petites entreprises, c'était pas forcément un PDG de Renault, de Peugeot ou de je ne sais quelle grande marque. En tout cas, c'était accessible, alors peut-être pas à tous dans l'État, mais en tout cas c'était accessible moyennant un accompagnement que vous proposez.
Tout à fait.
Alors je voulais revenir sur cette notion que la création de son propre emploi et éventuellement de d'autres emplois étaient accessibles, et je voulais qu'on en parle un petit peu de cette notion-là.
Pas de souci. Ça fait partie de ma mission, en fait, de vous accompagner en fait dans les premières démarches création auprès d'entreprises, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la création, c'est pas aujourd'hui le petit gars, comme on voit souvent un peu les stéréotypes, la petite BM, c'est la personne aujourd'hui qui a un savoir-faire, qui sait faire des choses et qui dit je vais te proposer mes services justement à des futurs clients. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de proposer ça. Et aujourd'hui, quelles sont les démarches pour que je puisse devenir chef d'entreprise, même si on est sur une auto-entreprise ou micro-entrepreneur maintenant, c'est de se dire aujourd'hui, je peux devenir créer mon propre emploi. Et puis en vivre à un moment donné, donc, et finalement d'avoir peut-être un planning différent, de pouvoir gérer un peu mon temps, parce que du coup c'est son temps qu'on gère, on n'est plus employé mais on est donc chef d'entreprise ou gérant, ou tout dépend de l'activité qu'on veut mettre en place. Et surtout on met en place ses savoir-faire, ce qu'on sait faire. Et du coup, on peut le proposer. Et du coup, ça permet à toute personne aujourd'hui de se dire « Ouais, super, la création d'entreprise, c'est pas comme tu l'as bien dit, je me permets de te tutoyer. »
Je vous en prie, Moussa.
peut-être pas un gros salaire, mais en tout cas d'en vivre de ce qu'on aime faire. Parce que souvent, c'est ça, c'est la première chose. C'est la première chose qu'on demande aux gens, c'est « Pourquoi vous avez envie de créer ?» aujourd'hui, c'est quoi? C'est peut-être aujourd'hui, je sais faire les choses, et peut-être, des fois il y a des stéréotypes, donc j'en ai un peu marre de mon patron parce qu'il il m'embête un peu, mais du coup, je vais devenir patron, je vais pouvoir proposer des choses, je vais pouvoir avancer dans mon projet, et je vais regarder aujourd'hui si je peux en vivre ou pas, parce qu'il y a la question aussi, on revient tout à l'heure, c'est financièrement, est-ce que je vais pouvoir avancer et créer quelque chose?
C'est aussi effectivement aujourd'hui des formes juridiques qui le permettent. On a évoqué la micro-entreprise, l'auto-entreprise, sont des formes juridiques peut-être un peu méconnues du grand public quand on ne s'y est pas penché. C'est là aussi où intervient l'accompagnement de la Pépite.
Tout à fait, la Pépite. Et c'est vraiment de CitéLab aussi. Parce que l'idée, c'est aujourd'hui démystifier un peu tous ces statuts. Parce que c'est vrai que c'est assez nébuleux. Alors, démystifier, c'est un grand mot, mais c'est simplement d'expliquer que certains statuts correspondent bien à une situation bien donnée. Tout le monde ne peut pas devenir chef d'entreprise, on est d'accord, mais ceux qui le souhaitent peuvent faire des premières démarches et regarder si ça correspond. Donc, on parle souvent de ce qu'on appelle dans le jargon adéquation à mon projet, c'est-à-dire de se dire, est-ce que mon projet colle avec ma situation personnelle?
Voilà, pour être très concret, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les expériences CitéLab qui fonctionnent? J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur des exemples, parce que du coup, c'est tout de suite plus parlant. Je sais qu'on avait des créateurs, des gens qui fabriquaient de leurs propres mains des objets artistiques ou des objets usuels également. Si on pouvait revenir sur deux, trois petits exemples afin que nous comprenions bien de quoi nous parlons quand nous parlons de chefs d'entreprise, parce que c'est bien ça le mot, qui sont passés notamment à travers les mains
de CityLab?
Alors, nous avons, alors aujourd'hui, il y a eu, plus cette année, j'ai eu quelqu'un aujourd'hui qui proposait tout ce qui est en micro-entreprise, par exemple, de proposer un service de d'accompagnement sur les anniversaires, par exemple, tout comme ça. Donc, des choses assez sympas avec un type complètement différent, c'est-à-dire proposer de prendre des enfants sur l'anniversaire, proposer un anniversaire complètement différent que le classique avec l'animation, etc. Notre plutôt sur de la vente ambulante, par exemple. Donc voilà, sur ce coup-là. Et puis prochainement, quelqu'un aussi qui fait, par exemple, de tout ce qui est prendre des matériaux de récupération et en fait des meubles, par exemple. On n'est pas mal. Donc il y a ces choses-là qui sont en cours aujourd'hui.
C'est assez divers. Je me souviens quand nous étions intervenus il y a un ou deux ans sur une valorisation de projet CityLab, il y avait un projet immobilier même.
Oui.
Ça veut dire que bon, ça couvre tous les secteurs, la possibilité de devenir chef d'entreprise.
Il est toujours en cours et en plus, on lui propose justement, dans le cadre justement de la pépite, de pouvoir aussi animer des ateliers pour expliquer aux personnes comment on peut rechercher un local. Parce qu'aujourd'hui, c'est une difficulté par rapport, dans le parcours, c'est j'ai besoin d'un local, comment je fais, vers qui je me tourne, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que c'est qu'un bail, enfin, pas mal d'éléments qui peuvent les aider à comprendre que pour rechercher un local, il y a différentes choses et, surtout pas se faire avoir sur certains points et comprendre un peu de quoi on parle.
Parce que souvent, les personnes qui passent par CityLab et qui créent leur entreprise, finalement, ils sont novices en la matière et finalement, ils pourraient tomber dans tous les pièges qu'on pourrait leur tendre. D'où l'intérêt aussi d'un accompagnement.
Tout à fait. Sachant que l'accompagnement CityLab est vraiment au départ, mais sachant qu'après, tous les partenaires de la création d'entreprise interviennent. Donc, on ne va pas tous les citer là, mais ils sont très nombreux. Mais l'idée, c'est de pouvoir justement les orienter vers ces organismes pour poursuivre l'accompagnement et répondre à des questions peut-être plus spécifiques en fonction de leur situation et de leur projet en lui-même.
Aujourd'hui, c'est combien de projets qui sont suivis par CityLab par an, ou je sais pas quelle est la temporalité. Alors, d'ailleurs, c'est pas forcément une temporalité annuelle,
non,
que vous avez.
On est par an, je suis à peu près une centaine de personnes à peu près sur une année, on va dire une année civile de janvier à décembre.
Ah oui, c'est pas rien quand même.
C'est pas rien, c'est pas mal. Donc c'est-à-dire que tous les gens qui passent par CityLab après tout un suivi, donc. Pour des gens, des fois, qui retrouvent un emploi, il y a des situations très particulières parce qu'il y a aussi le fait que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément des gens qui vont créer, mais qui vont peut-être retrouver du boulot et puis finalement mettre le projet en stand-by en attendant que la situation peut-être personnelle évolue.
Peut-être aussi parfois la simple, enfin pas la simple question d'ailleurs parce qu'elle est très complexe, le fait de se poser des questions sur comment créer, finalement remettre aussi en dynamique d'emploi d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en faisant mes démarches pour aller créer une entreprise, finalement je rencontre l'emploi à travers les moyens que j'ai mis en œuvre.
Complètement. Et c'est vrai que là-dessus, moi, c'est important, je parle toujours de fil rouge. Donc l'idée c'est d'être en fait en parallèle avec la recherche d'emploi et puis de travailler sur ces deux éléments-là pour justement ne pas se focaliser sur une seule entrée et avancer et permettre de trouver une situation, enfin en tout cas une solution à un moment donné quand on fait le choix, soit d'aller jusqu'au bout de la création, soit de revenir vers l'emploi salarié parce que c'est peut-être ça qui est peut-être plus important et en fait tester et ça n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas un échec.
Voilà, c'est ce que j'ai à revenir. Finalement, la tentative qu'elle aboutisse ou qu'elle n'aboutisse pas n'est pas une réussite ou un échec. C'est bel et bien un travail qui a été enclenché, qui peut être repris quelques années plus tard ou pas, ou transformé, ou peu importe. En tout cas, il n'y a pas cette notion d'échec qui est liée au travail mis en place avec vous à la pépite.
Non, c'est, c'est vraiment, c'est souvent, on appelle ça plutôt réorientation, donc de rechanger de situation parce qu'aujourd'hui, c'était pas le moment des fois, ça peut être aussi ça.
C'était pas forcément ce qui avait de plus adapté au moment sur lequel c'était proposé. Comment, à qui s'adresse en fait la pépite? Qui peut, donc c'est sur Netreville, sur la zone industrielle? Vous allez l'expliquer mieux que moi.
Donc on est en fait situé à la ZAC du Lombus, je dis des bêtises, ça commence déjà.
Bon, je vais vous aider. Hein.
Non, on est plutôt situé sur la ZAC des Baudets Communes en fait, donc sur Netreville, là où aujourd'hui, si pour certains, le dépôt transurbain, nous avons aussi éducation formation pour préciser, parce que des fois les gens connaissent un petit peu. Et en fait, on est là. C'est vrai qu'aujourd'hui, axé sur les porteurs, mais on est en train de travailler pour essayer de voir pour intégrer. Donc, si vous avez besoin d'informations, il faut venir nous rencontrer. On vous explique un petit peu comment la démarche pour pouvoir en tout cas pouvoir intégrer peut-être la pépite à un moment donné. Donc il faut nous poser des questions et on vous reçoit et on regarde un petit peu comment on peut faire.
C'est ça, on ne peut pas dire d'entrée, la pépite, ce n'est pas pour moi. Enfin, a priori, vous accueillez tout le monde et puis après, ça discute. C'est ça le but, quoi. Voilà, on accueille, on discute après.
Voilà, on discute et après, on voit un peu comment on peut faire. Et voilà, parce qu'on va vous dire bah, non tout de suite, il faut d'abord qu'on regarde un peu par rapport à votre situation, etc.
Mon projet est-il obligatoirement très défini quand je viens vous rencontrer?
Non, pas nécessairement. Pour ma part, pas nécessairement. C'est pas vraiment juste l'idée. C'est-à-dire, la personne qui veut proposer, qui veut vendre sur les marchés, me dit simplement je veux vendre tel type, et puis après on regarde un peu et on essaie de creuser un peu plus pour avoir un peu plus de matière et à proposer. Sachant qu'on a aussi, l'idée c'est d'aider ce qu'on appelle la formulation du projet, c'est-à-dire l'écriture. Parce que c'est vrai que très simplement, comme je le lis souvent, c'est très clair dans la tête du porteur, mais moi je ne suis pas dans la tête du porteur, donc l'idée c'est de pouvoir l'écrire.
C'est ça, passer d'une idée qui est claire pour nous au papier pour pouvoir communiquer dessus, puis pouvoir l'organiser et justement avec le réseau nécessaire pour la mise en œuvre. Parce qu'on a bien compris que la mise en œuvre, c'est pas quelque chose qu'on fait dans son coin tout seul, c'est quelque chose qu'on doit partager. Et notamment, la pépite peut aider à ce niveau-là, mais à tous les autres niveaux, bien entendu. Il y a des limites à l'aide apportée?
Pour l'instant, comme je dis, il faut regarder un petit peu pour chaque situation. On a une volonté de gratuité, mais après, il faut qu'on regarde un peu par rapport à chaque situation, etc. Donc, on est là-dessus, mais après, il faut voir la situation assez géographique dans un premier temps, mais on verra. Mais il faut venir nous voir et on regarde ensemble avec les différentes situations.
Très bien Moussa, c'est ça que nous garderons. On vient vous voir et on discute, on verra. Il y a moyen au moins d'avoir de l'info et puis de goupiller les choses en tout cas.
Exactement.
Merci beaucoup Moussa d'avoir échangé avec nous
à nos micros.
Merci la pépite sur la ZAC du Bois des Communes à Netroïde. Il y a les panneaux de toute façon, les petits panneaux pépites, on suit et on y arrive.
Et c'est ça. Et sinon, on est dans le même bâtiment. Il y a aussi, pour ceux peut-être qui connaissent, la station Cicéron, tout ce qui est réparation de vélo. Donc ça peut aider à repérer parce que souvent des fois on est dans les mêmes bâtiments, donc ça peut
de toute façon on voit les vélos de loin en plus quand on arrive à côté de la pépite et de Cicéron.
Exactement, on les voit, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup Moussa d'avoir échangé avec nous au micro.
Merci à vous.
Monsieur Pignon, je me retourne vers vous en vous proposant une courte pause musicale si vous le voulez bien. Ça vous va? Allez, dites-nous un truc monsieur Pignon. Oui, vous montez votre pouce, ça veut dire que vous êtes content.
As the winner, I feel from within myself that first winner supposed to be I. Hear them now after I win. Hear them now. Vexation
over this race.
No feelings, no slights
over this race.
No feelings, no slights
over this race.
Burning Spear avec le morceau This Race.
Principe actif.
C'est une radio libre.
Oui, je sais.
Alors, c'est une radio libre.
Je suis au courant. Parfait.
À Évreux, 102.4. À Verneuil-sur-Avre, à Breteuil-sur-Iton, à Conches-en-Mouche, 95.9.
Toujours et encore en direct de la maison de quartier de la Madeleine. Bonjour à toutes et tous pour parler de l'emploi avec des conseillers, des guides, des professionnels de la question qui sont dans la maison de quartier de la Madeleine, ce jusqu'à midi. On rappelle que demain nous serons dans le gymnase Jean Barre à Nétreville et qu'il y aura le même dispositif qui vous est accessible, vous habitants d'Évreux et plus précisément du quartier de Nétreville, demain à partir de 9h dans le gymnase Jean Barre et non Jean Barthes, comme j'ai pu l'entendre dans la matinée ce matin. Monsieur JC, je vous retends le micro pour recevoir un nouvel et agréable invité.
Exactement, faites bien de corriger toutes ces appellations de ces gens célèbres. Jean Barre d'ailleurs, je ne sais pas forcément ce qu'il faisait dans la vie. Nous renseignerons demain pour ne pas avoir l'air d'imbécile et ce sera plutôt pas mal. J'ai à mes micros Malika Chebli. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Vous êtes vice-présidente du Conseil citoyen de la Madeleine. Et du coup, le Conseil citoyen, alors très clairement, sont des citoyens ordinaires qui se sont constitués en conseil. Notamment, c'était suite à la mise en place de l'ANRU, si je ne dis pas de bêtises, des mises en place de ces conseils citoyens.
Donc, excuse-moi, donc en fin de compte, c'est suite à une loi qui a été votée au niveau de l'État. Donc en 2014, si je ne me trompe pas, moi j'ai pas, voilà. Et donc, on a constitué le Conseil citoyen en association. Donc, on a un président et trois vice-présidents sur les quartiers prioritaires, donc Madeleine, Navarre, Nétreville. Et nous sommes là, en fin de compte, pour être à l'écoute des habitants sur des situations comme là, au niveau de l'emploi, ou, puisqu'il y a des nouvelles dispositions qui sont mises vis-à-vis de l'État. Donc on appelle des jeunes ou des moins jeunes, des personnes qui ont retrouvé une situation professionnelle ou une formation. Et donc voilà.
Mais vous allez au-devant de mes questions. Justement, j'étais sur le rôle de ce conseil. Non, mais je vous en prie. Et puis, on sent bien que c'est la passion aussi qui anime votre intervention. Et puis, j'imagine aussi votre vice-présidence de ce conseil citoyen. Le rôle du conseil citoyen, c'est être le porte-parole des habitants plus largement ou comment vous concevez ce rôle de conseil citoyen?
Alors moi, le rôle que j'ai en tant que vice-présidente sur mon quartier, sur le quartier de la Madeleine, c'est qu'en fin de compte, je vais aborder des personnes, leur demander s'ils connaissent le Conseil citoyen d'Évreux. Certains ne connaissent pas, donc j'explique la fonction du Conseil citoyen, qu'on est là pour les habitants, voilà, ou les citoyens, parce que moi j'utilise habitants et citoyens, que s'ils veulent avoir des informations, ils passent par nous. Pour monter des projets, ils peuvent passer par nous. Et nous, en fin de compte, après, on dirige vers les instances concernées.
Vous n'êtes pas une politique en fonction, vous êtes une citoyenne ordinaire.
Oui. Hein,
vous démentez quand je dis des bêtises. Alors forcément, on pourrait considérer dans toute sa noblesse que c'est un acte politique, bien entendu, d'agir pour le quartier, d'agir pour ses habitants. Mais en tout cas, on est hors de ce qu'on appellerait la politique standard. C'est important, cette notion-là.
Voilà. On n'est pas du tout politique. Je veux dire, personne décide à notre place, que ce soit, excusez-moi, la mairie ou le département ou le préfet, on est association, donc on peut dire ce qu'on a envie de dire. Voilà, on n'est ni de, excusez-moi de citer quelques partis politiques, de droite, de gauche, du milieu, du Front National ou autre, etc. Pas du tout.
Il n'y a pas ces considérations-là, en tout cas, dans ce Conseil citoyen, enfin, dans le Conseil citoyen tout court.
Après, en tant que personne, on a le droit d'avoir nos opinions politiques.
Ah bah, j'espère bien. J'espère bien. Mais en tout cas, oui, le Conseil citoyen, c'est important, cette notion-là, est de toute façon indépendant de ce qu'on pourrait appeler les partis politiques ou les fonctionnements institutionnels et politiques.
Voilà.
C'est très important, cette notion-là.
Oui, voilà. Aucun parti politique.
Donc vous, sur la question de l'emploi, vous avez été saisi par le collectif, hein, vous avez été saisi, en tout cas vous les avez peut-être saisis, d'ailleurs je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé, mais en tout cas vous êtes rencontré avec ce collectif qui travaillait notamment sur les forums de parcours d'emploi. À quel titre et puis quelle est la petite touche du Conseil citoyen?
Nous, en fin de compte, on a été conviés donc, par la déléguée préfectorale, Mme Fouziane Ouissère, et donc le petit groupe de travail. Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas de formation, de notion pour former ces personnes-là. Donc on nous a demandé d'intervenir. Bah, j'ai un exemple comme là, il y a la NPE, il y a Mission Locale, le CII, l'FPA, bon, et d'autres, parce que je n'ai pas tout en tête. On nous a demandé, en fin de compte, d'interpeller les citoyens. Voilà, de leur dire, voilà, il y a une réunion de 9h à midi, maison de quartier de la Madeleine, de venir voir ce qui est intéressant, puisqu'il y a une nouvelle dispositions qui sont mises vis-à-vis de l'État prochainement ou peut-être maintenant. Donc voilà. Donc on nous a demandé, en tant que conseil citoyen, d'intervenir. Voilà.
Voilà, vous êtes en lien directement avec les habitants du quartier de manière générale. Et à ce moment-là, on fait intervenir le conseil citoyen. Alors je vous ai vu aussi sur les réunions de préparation, parce qu'on va tout dire. Hein, vous étiez aussi sur les réunions de préparation.
C'est pas bien ce que vous dites là.
Pourquoi ? C'est plutôt bien que vous y soyez aussi sur ces réunions afin de suivre aussi le projet.
Quand je sais pas bien, vous dévoilez tout. Il y a des choses qui vont... secret.
Vous voulez que ça reste secret, tout ça ?
Non, on a été conviés en fin de compte pour assister à ces réunions de petits groupes de travail. Bon, les petits groupes, c'était quand même un énorme groupe. Donc, avec la DG préfectorale, vous y étiez, si je ne me trompe pas.
Ah, oh, vous dévoilez tous nos petits secrets, madame Chebli.
Voilà. Et c'était très intéressant. Il y a eu un échange important qui a été fait au niveau des affiches, aussi bien par vous-même aussi, de ce que vous allez faire. C'était bien, c'était très bien. À refaire, s'il y a besoin.
Et donc aussi, c'est toute l'importance d'intégrer les habitants à travers le conseil citoyen dès la conception des projets également.
Voilà. Et à reproduire si c'est possible, parce que le matin, vous savez, c'est pas évident, mais soit une journée ou en après-midi, on a eu du monde, mais peut-être on touchera plus de monde. Moi, sur le quartier, je précise sur le quartier parce que je suis sur la Madeleine. Voilà.
Tout à fait. C'est déjà pas rien d'être actif sur un quartier. On va pas non plus être actif sur tous les quartiers en même temps.
C'est l'un des plus gros quartiers. Voilà.
Tout à fait.
Voilà.
Votre regard un petit peu sur le déroulement d'aujourd'hui, vu qu'on est parti sur les confidences, on va tous dire.
Non,
un petit peu là sur le déroulement aujourd'hui. On a vu beaucoup de monde passer, enfin en tout cas un certain nombre de personnes passer. Les intervenants se sont installés là dans cette maison de quartier. Votre regard un petit peu sur cet investissement de la maison de quartier par les acteurs de l'emploi et de la formation.
Je trouve que c'est bien, ça permet d'avoir aussi un échange et que les gens connaissent un peu les institutions qui existent. Après, il y a des personnes qui étaient un peu perdues quand ils sont rentrés dans la salle. Donc après, il y a une orientation qui s'est faite par moi et Madame Chebli et par aussi la déléguée préfectorale, par aussi Madame Naroun. Donc voilà, après, ça dépend. Il y avait par exemple, une jeune fille qui avait 22 ans, donc on orientait vers mission locale. Il y a un monsieur qui avait plus de 45 ans puisqu'il voulait faire une création d'emprise, on l'a orienté au niveau de l'EPN. Voilà. Mais j'ai un regard qui est optimiste, honnêtement, et puis j'espère que ça montrera encore plus la côte, pour permettre à ces personnes-là de retrouver une situation professionnelle, soit par biais d'une formation, et après pour trouver un travail. Voilà.
Pour terminer, je voudrais savoir où est-ce qu'on a des nouvelles du Conseil citoyen de la Madeleine ? Par quel bien pouvons-nous avoir des nouvelles ?
Alors, il y a mon président, M. François Bouillon. Il y a un site qui existe.
Sur le Conseil citoyen de d'Evreux, la Madeleine ?
D'Evreux, de manière générale. Il y a aussi un compte Facebook qui est en cours de réalisation. Et après, nous situons Maison de quartier de la Madeleine au premier étage. Voilà. Donc après, vous pouvez vous demander au niveau de l'accueil, donc on va vous orienter. Et puis moi, on peut me trouver sur la Madeleine. On demande Malika ou Madame Chebli. Mais c'est plus Malika ou Tata, par rapport aux jeunes.
Très bien. Merci beaucoup.
Je vous remercie à vous
d'échanger avec nous, Malika Chebli. Je rappelle, vous êtes vice-présidente du Conseil citoyen de la Madeleine. Merci beaucoup d'avoir
merci
échangé
à vous.
Avec nous.
Merci.
Monsieur Pignon, si vous le voulez bien, nous repartons en musique.
J'allais entamer la cinquième manche avec ma bitch quand Marskus apparaissent dans ma TV, ce qui signifie que l'heure est grave. Magnifique stand, bébé, tiens les draps chauds, je reviens, on va à la plage. J'ai mis mon masque, ma casquette et ma cape, et sur ma Desperado moto, quelle chance je capte. C'est Mars, v'là le message, le rap français s'est fait kidnapper par des mauvaises chansons. 1 euro, personne ne paye la rançon. On cherche un héros prévenu, ce coup-là y'a pas de thune. T'inquiète, j'ai l'habitude, instru chargé, toujours prêt d'après toi. Qui appelle-t-on lorsque le monde court à sa perte musicière? BD brodé sur le torse, un être capital ne veut pas dire. Bande d'enfoirés, mic au poignet, t'ignore qui va gagner, pas de soigner.
C'est Black Desperado, cours, moi t'as déjà plus au galop. Black Desperado,
règle tout hors caméra. Depuis l'opéra, Puccino, opéra.
C'est Black Desperado. Courant de chaque au calo. Black Desperado.
Situation à haute température. Rapide, rapide, donc c'est d'ago en capsule. Quelques jours d'enquête et 10 fois que je passe là. Suspestible, et si j'étais susceptible, j'aurais pensé que m'était destiné ces injures misogynes. Quand il rugit, crie sale. Karatéka de Black Desperado, son or à ta pose, fallait rester sur ta mot. Il me dit que rap français est ligoté derrière la porte. Et que si je voulais y aller, fallait passer par son corps. Idiot se met en garde, prononce un jeu de langue. Sans que ça va barder, je suis trop speed. J'esquive sa gauche en finesse, en traître, je dégaine un lance-roquette. Maman va dans les côtes. Je l'attrape par le cou, je le montre à ces messieurs me disent, trempez-le dans le quand j'entends. Non, pitié, tiens la clé. Juste avant ma lame sec, déséquilibré. Rap français, tiens bon, il te reste des rimes à vivre. Ne pleure plus, c'est moi, je suis venu te délivrer.
C'est le Black Desperado. Pour m'appelle Jacques Rogano. Black Desperado.
Règle tout hors caméra. Depuis l'opéra, Puccino, opéra.
C'est Black Desperado. Pour m'appelle Jacques Rogano. Black Desperado.
Situation à haute température. Rapide, rapido, c'est à bon capsule. Nous voilà dans la salle, atmosphère glauque. Rap français, baïonné par terre, frôle l'agonie. Un public déçu me cerne. Plus qu'un couplet dans mon chargeur. Dites-moi comment tenir un concert, un dernier regard au rap français. Je m'élance à l'avant de la scène, mic en avant, la voix en l'air. Chaque mot doit toucher sa cible. Si ma vocale en traverse, je vise même le trapéziste flow élastique. Combinaison de consonnes, des phrases connes qui sonnent. Appelle-moi aussi Jolastus. Qui se passe, qui pense pas, rap français en personne qui donne ça. Il a mal aux pieds, boîte, il danse à cloche patte. On remercie qui, mais où est le Black Despé? C'est excusé, informé dans l'instant. Paraîtrait-il qu'on torture le zouk à la rôtissoire? Mais ça, c'est une autre histoire. Pour le Black Desperado.
C'est le Black Desperado. Pour moi, t'as Jacques Rogano. Black Desperado.
Règle tout hors caméra. Depuis l'opéra, Puccino, opéra.
C'est Black Desperado. Pour moi, t'as Jacques Rogano. Black Desperado.
Situation à haute température. Rapide, rapido, c'est à bon capsule.
Black Desperado, d'Oxmo Puccino.
Principe actif.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose. C'est la radio culturelle qui donne à penser, qui donne à réfléchir.
Le mix des cultures.
Et voilà, c'est ainsi que va s'achever notre direct de la Maison de Quartier de la Madeleine à l'occasion de ce forum autour de l'emploi et de la formation. Nous aurons eu l'opportunité aujourd'hui encore de croiser tout un tas de monde autour de nos micros, des témoins, des personnes qui font justement ces parcours vers l'emploi, qui font la formation et puis surtout, et ça j'y suis très attaché, des témoins de ces parcours, des personnes qui sont passées par des accompagnements, par des dispositifs, par des mises en action de certains éléments et qui sont venus témoigner de leur parcours. Et ça, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien. Hein. Voilà, Monsieur Pignon, je vous fais vous opinez du chef et vous faites un pouce. Oh là, pouce plus opinage du chef, c'est que vous validez à 200%, j'ai l'impression. En tout cas, nous vous invitons à nous rejoindre demain au gymnase Jean Barre de Netreville où ces intervenants également du milieu de l'emploi seront présents. Nous continuerons à tondre notre micro pour constituer à l'issue de ces 3 jours, donc ce direct d'aujourd'hui, mais également un podcast mixant les rencontres et les échanges que nous aurons eus durant ces 3 jours autour de l'emploi et de la formation. Pour Radio Propulser cette émission jusqu'à vos oreilles, nous avions, et ça je vous l'annonçais dès le début, les meilleurs des meilleurs de nos hommes, à savoir Monsieur Damien, qui aura œuvré comme une fourmi, et nous avions l'excellentissime Monsieur Pignon à la réalisation. Restez à l'écoute de nos programmes, et puis venez nous voir demain à Netreville, à Jean Barre. Venez, 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 venez.